Rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous culture. Aujourd'hui, nous sommes 5 à vous partager nos derniers coups de cœur, des ouvrages dont on a envie de vous parler pour vous les recommander. Donc Antoine nous parlera de Dune de Frank Herbert, Amy, les possibles de Virginie Grimaldi. Pour ma part, je vous parlerai de Feu, Maria Pourchet. Ensuite, Frédéric nous parlera de Ce monde est tellement beau de Sébastien Lapac, ainsi que Étranger le chagrin de Naples. Aurore nous parlera d'une auteure compiénoise, Un avocat a disparu de Muriel Bellier. Et pour finir, un petit film, Balloon, le film de Pema Tseden. Donc, place à Dune avec Antoine.
Merci beaucoup, Anne. Alors, je vais vous parler de Dune, mais pas du film. En fait, vous avez sans doute entendu parler du film Dune de Denis Villeneuve. Vous connaissiez peut-être le film Dune de 1984, j'ose pas dire de David Lynch. Mais est-ce que vous connaissez le Dune de Frank Herbert? En fait, je me suis plongé dans Dune après avoir vu le film de Denis Villeneuve parce que j'ai eu cette espèce de fin d'un univers. Je ne sais pas si ça vous arrive de ne pas être rassasié. Vous voyez un film, vous voyez une série et en fait, il vous en faut encore. Moi, ça m'est arrivé avec Game of Thrones, ça m'arrive régulièrement avec... Ça m'est arrivé avec 100 ans de solitude de Marquez et ça m'est arrivé récemment avec Dune. Et après avoir vu le film, j'en pouvais plus. Je regardais des vidéos sur YouTube et je me suis dit, bon, bah... Voilà, il faut que je lise le livre. Et je n'ai pas été déçu, puisque j'en ai eu à ma fin. Donc j'ai commencé ce livre. C'est un livre de 1965 qui a la particularité d'avoir été écrit par un auteur de science-fiction hein, qui voulait être auteur, mais au départ, il faisait une étude, il faisait un article, quasiment un article commercial sur des dunes dans l'Oregon. Et puis, il s'est passionné pour le fonctionnement des dunes et il a fini par en écrire un cycle de livres qui a marqué l'histoire de la science-fiction. Et alors moi, ce qui me plaît beaucoup dans cet univers, d'abord le désert. J'adore tous les livres qui se passent dans le désert. En plus, ils ont un rapport au désert, aux personnages de désert, aux animaux du désert qui est très particulier. Il y a aussi tout un rapport à l'eau, à la manière d'économiser l'eau, de considérer l'eau comme une richesse qui est absolument fascinant. Et puis, il y a un arrière-plan qui est, si vous voulez, l'arrière-plan des révoltes arabes des années 40-50. C'est très influencé par Lawrence d'Arabie. Vous avez aussi tout un monde qui est celui de l'aventure, du combat. Et donc, c'est à la fois un roman écologique, un roman de science-fiction, hein, évidemment, et puis aussi, il y a une dimension historico-politique. Alors moi, l'univers de Dune, je l'ai connu d'abord par un jeu vidéo, par le petit jeu vidéo qui a été sorti en 1992 et que j'ai jamais réussi à finir, d'ailleurs, il n'est pas facile, mais qui m'a introduit à cet univers. Et puis ensuite, c'est certains de mes collègues dans les bibliothèques de Compiègne qui m'ont dit « Non, mais vous n'avez pas lu Dune, c'est génial, c'est formidable, il faut absolument au moins que vous voyez le film de 84. » J'ai vu le film de 84 que j'ai trouvé formidable. J'ai vu celui de Denis Villeneuve que j'ai trouvé formidable de manière très différente. Et puis, du coup, je me suis mis au livre, que j'écoute en fait en livre audio, dans la version de Benjamin Youngers, que j'aime beaucoup, qui fait des voix différentes. C'est un peu perturbant parfois, mais c'est très, très agréable. C'est 24 heures d'écoute. C'est très agréable à écouter, soit dans sa voiture, soit en faisant le ménage. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que par rapport au film, il y a quelque chose de très différent dans le livre. C'est le côté psychologique. En fait, c'est un roman très intérieur qui fait parler en fait beaucoup les voix intérieures des personnages, qui n'est pas du tout un roman d'action. Il y a de l'action, il y a des événements évidemment, mais c'est un roman où en fait, et c'est comme ça qu'il se positionne dans la science-fiction, c'est pas la technologie qui réellement fait la science-fiction, c'est beaucoup plus les progrès de l'esprit. Dans pas mal d'ouvrages ou de films de science-fiction, vous avez des technologies, des sabres laser, des choses comme ça. Mais là, et d'ailleurs, il y a un lien avec Star Wars, mais c'est vraiment l'évolution psychique des personnages qui compte dans le développement, si vous voulez, de la civilisation. Et je trouve ça assez rare pour le souligner. Et alors, je crois que ma collègue Aurore est également en train de l'écouter dans la même version. Aurore, vous avez peut-être une idée sur la question ?
Alors, effectivement, je suis en train de l'écouter aussi. Bon, pour info, je n'ai pas non plus fini le jeu vidéo de 92. Je n'ai pas réussi à aller jusqu'à la fin. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé en fait, dans le film de Denis Villeneuve, qui m'a un peu comme vous donné fin de cet univers-là, c'est son côté contemplatif. Et en fait, en écoutant le livre après avoir vu le film, aussi, c'est la façon dont la narration est faite dans un film et qui n'est pas du tout dans le même ordre l'ordre ou même l'intrigue n'est pas traitée de la même façon dans le film qu'elle est dans le livre. Par exemple, dans le livre, on sait tout de suite qui est le traître, et dans le film, on ne le sait pas du tout tout de suite, on l'apprend à peu près à la moitié du film. Et du coup, je trouve cette façon de mettre en valeur le cinéma par un scénario légèrement différent qui met du coup l'histoire en lumière, sous une autre lumière, en fait, ça m'a beaucoup plu aussi de faire cette comparaison-là, en fait, entre les deux. Et voilà, sans compter la musique de Hans Zimmer, qui est quand même formidable.
Merci beaucoup, Aurore. Et puis, voilà, c'était Dune. Vous pouvez évidemment l'acheter ou l'emprunter à la bibliothèque. Et je passe la parole à Amy.
Merci, Antoine. Pour ma part, je vais parler d'un sujet un peu plus léger, qui est Les Possibles de Virginie Grimaldi. Alors, c'est une auteure et blogueuse française qu'on ne présente plus. Elle est lauréate de plusieurs prix et célèbre pour ses romans. Donc, Le premier jour du reste de ma vie, et Tu comprendras quand tu seras plus grande, les livres de Virginie Grimaldi qui ont séduit donc des milliers de lecteurs. Et ici, la romancière nous emporte avec une histoire qui est centrée autour du personnage de Juliane. Donc, c'est un personnage, en fait, qui n'aime pas trop les surprises, mais quand son père fantasque vient s'installer chez elle, à la suite de l'incendie de sa propre maison, alors son quotidien est parfaitement... vraiment bouleversée, et donc elle connaît quelques turbulences, et en fait c'est une manière que Virginie Grimaldi a su aborder le thème, alors douloureux mais avec beaucoup de bienveillance et de délicatesse, qui est la maladie dégénérative chez les personnes âgées. Et dans les remerciements de son roman, on comprend que cette histoire est, pourrait-on dire, peut-être pour l'auteur autobiographique et cathartique, puisqu'elle l'a elle-même vécue avec son propre père. Alors, n'en retenez pas l'aspect tragique de la situation, car le titre « Les Possibles » est révélateur de l'essence de ce roman, dans lequel elle dépeint la relation père-fille avec beaucoup d'humour, de légèreté et surtout de tendresse. Et les dialogues de ce père sont riches de réparties bien ciselées. Et Virginie Grimaldi a un talent unique pour mêler savamment humour, émotion et sensibilité. Et si je devais résumer en quelques mots, je dirais que pour moi, elle a dédié à travers ce roman un très bel hommage à son père et à toutes les personnes ayant vécu cette même expérience, car ce roman leur redonnera un regain d'énergie face aux difficultés de l'existence et une ouverture vers le champ des possibles. Donc je passe la parole à ma collègue Anne.
Merci Amy. Alors moi c'est un roman de la rentrée aussi, donc de Maria Pourchet qui s'appelle Feu. C'est son sixième roman. Elle nous raconte une histoire d'adultère. Elle nous raconte l'incandescence d'une passion amoureuse, du désir auquel on ne peut résister, entre une femme et un homme qui n'ont au départ rien en commun, à part le fait d'étouffer dans une vie toute tracée. Dit comme ça, ça peut paraître bien banal, mais il n'en est rien, car l'auteur a un style singulier qui parvient à renouveler le genre et à nous éblouir. Alors elle, c'est Laure, 40 ans, elle est mariée à un médecin, elle a deux enfants, elle est professeure à l'université de Cergy. Et elle se fait encore sermonner par sa mère défunte dans des dialogues intérieurs imaginaires. Lui, c'est Clément. Il a 50 ans, c'est un riche et cynique banquier dans une entreprise qu'il nomme Banquise. Il parle à son chien, qu'il appelle papa, par mépris pour son père. On partage leur discours intérieur, donc leurs failles, leurs doutes. Chacun à sa manière est marqué par un manque de confiance en lui, mais aussi en sa capacité d'aimer et d'être aimé. Ils sont humains, ils sont pleins de paradoxes. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi qu'on s'attache plus ou moins difficilement à eux. Ils ne sont pas toujours aimables ni sympathiques. Ils sont humains. Et Maria Pourchet, elle est experte pour décrire des scènes avec minutie. Et elle dépeint étape par étape cette relation via l'alternance des monologues intérieurs. C'est très vif, c'est vivant. Les mots fusent et abondent, comme si l'auteur enflammait le papier avec ses mots. Et c'est des mots d'ailleurs souvent crus. La plume est acérée et percutante. Maria Pourchet exige une attention soutenue du lecteur. Ce n'est pas une lecture facile. Et au passage, elle aborde les travers de notre époque, l'hypocrisie violente du milieu professionnel, la pression sociale, les injonctions au bonheur. Et elle exprime incroyablement bien le désir qui permet de réveiller, de rester en vie, mais aussi qui a des effets dévastateurs. C'est un feu qui étincelle et consume. Et c'est brillant. Maintenant, on va faire une petite pause musicale avec Tony Allen. Donc je vous propose d'écouter, c'est un des titres du superbe album Hommage à Tony Allen qui est mort il y a quelques mois. Et nous venons d'acquérir cet album pour la bibliothèque Mourichon. Le musicien nigérien est décédé donc l'année dernière alors qu'il travaillait sur cet album There is no end. Il avait eu le temps d'enregistrer les rythmes de batterie et il comptait inviter une pléiade de jeunes rappeurs et rappeuses du monde entier. Ce projet a été achevé par ses plus proches collaborateurs et le titre Cosmosis que j'ai choisi de vous faire écouter a été réalisé par son grand ami Damon Albarn sur des textes du poète nigérien Ben Okri et chanté par Skepta, un grand nom du grime anglais, ce qui donne un morceau dense empreint de spiritualité et de poésie.
Cosmos. Let's talk about the science of how things break. How the heart breaks. How the age founders shatters with no one listening. How the mind quakes. How we lose all that matters. Oh, the music of the bones. Music of sage and wise stones. Let's talk about the art of how things break. Things that were hard to make. Things like peace and love and need. How the nations shake. How the good is lost to the fake. Oh, breathe change by osmosis. Change and the music of cosmosis. But Sufis sing about the music of how things turn. Things the other ones want to bury or burn. Things like unity, friendship, relativity. Things that when dead will mourn. How the music runs in the stream. How can we in these troubled times dream? Oh, the spirits dancing in the slipstream. Power and fire in the drum dream.
Yeah. She was looking for a prince, so now she's hitting the road. She tried kissing a frog, oh now she's licking a toad. Spiritual girl, she's got a story to tell. She taught me to love myself, forget everyone else. Forget and I forgive, I don't give it attention. How you feel about me, it's just a reflection. I'm out of my ego, I'm back into space. Hold me in your arms and feel the connection.
Cosmosis. Cosmosis. Yeah, man.
The present moment began with fire, and still it burns.
Cosmosis.
The present moment began with fire, and still it burns.
Yeah.
It began with water.
Cosmosis.
And still they drown. Still they drown.
Yeah.
On the margins of Europe. The present moment began with fire. And still it burns. The present moment began with fire. Dreams made of flesh. She was looking for a prince, so now she's hitting the road. She tried kissing a frog, oh now she's licking a toad. Spiritual girl, she's got a story to tell. She taught me to love myself, forget everyone else. Forget and I forgive, I don't give it attention. How you feel about me, it's just a reflection. I'm out of my ego, I'm back into space. Hold me in your arms and feel the connection.
Yeah. What's going to change at my house? Cosmosis. Check it out. When will the story of a
incarnation. Change and shine. Cosmosis. Cosmosis.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bien, je vais vous présenter « Ce monde est tellement beau » par Sébastien Lapac. Je vous présenterai ensuite le livre de Népal, « Étrange et le chagrin ». Donc, « Ce monde est tellement beau », c'est une brillante histoire de Sébastien Lapac, jeune romancier de 50 ans. Et oui, 50 ans, c'est très jeune pour moi. Pardon. En 1998, il publie un premier essai, « Georges Bernanos, encore une fois ». Et un premier roman, « Les barricades mystérieuses ». Au printemps 2002, il reçoit le prix Goncourt de la Nouvelle pour son recueil « Mythologie française ». Donc je passe sur les étapes de sa carrière brillante d'écrivain. Pour arriver au titre que je présente, « Ce monde est tellement beau ». Alors c'est l'histoire d'un homme ordinaire, Lazare, qui subit une vie sans aspérité. Une vie triste dans un environnement morne et désabusé. Une vie que beaucoup de nos contemporains subissent au quotidien sans grand espoir de changement. Au bout du compte, une vie pour pas grand-chose. La force du livre, sa richesse, c'est la transformation progressive de ce quidame qui va petit à petit s'élever vers la beauté du monde à travers une vision différente de l'environnement et aussi à travers un cheminement spirituel vers la joie. Alors, pour l'auteur, ce roman est du côté de la joie du bleu de Chartres, écrit Lapac. Donc, c'est un roman engagé spirituellement, comme ceux de Bernanos, en fait. Pour moi, c'est un livre très abouti, travaillé avec beaucoup de références culturelles, un vrai travail d'écrivain. Il évite beaucoup de clichés. Lazare n'est jamais seul, par exemple. À titre personnel, je ne me suis pas senti en phase avec le personnage de Lazare, car je n'ai pas du tout le même ressenti terne et pessimiste du monde actuel, et j'ai l'impression de trouver un peu de beauté chaque jour. Et heureusement, me direz-vous. Donc maintenant, je vais parler du livre, du dernier écrit posthume de Vidyadhar Suraj-Prasad Népal, N-A-I-P-A-U-L. C'est le prix Nobel de littérature de 2001. Donc, il est assez connu. Mais pour lui, qui est mort à 86 ans, il n'a pas eu la reconnaissance professionnelle et populaire qu'il méritait toujours selon lui. Hein. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'en lisant son écrit « Étranger le chagrin », j'ai beaucoup apprécié le style de l'auteur qui, en peu de mots, décrit les situations de chagrin qu'il a vécu lui-même. Et ce « Étranger le chagrin » a été publié dans le New Yorker au début de l'année 2020. Et c'est le dernier inédit de Népal en français. L'éditeur ajoute à cet inédit un autre texte inédit en postface de son ami Paul Théroux, écrivain mondialement connu. Personnellement, Paul Théroux, je ne le connaissais pas. Népal, oui. Alors, ce qui m'a plu beaucoup dans ce livre, et je l'ai dit, c'est qu'en revenant sur trois deuils liés, bien que très différents et éloignés dans le temps, Népal parvient à montrer les différentes formes de chagrin et toujours de façon surprenante comment ils sont logés en nous, en permanence, attendant un moment aussi mystérieux qu'incongru pour revenir s'exprimer. Je recommande ce petit livre. Il est assez court, je pense qu'il fait moins de 50 pages, mais c'est une très belle écriture et on n'en entendait pas moins de Népal, qui est un des meilleurs écrivains qu'on ait connu au XXe et au XXIe siècle. Là, je passe la parole à Aurore. Oui.
Bien, merci Frédéric. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter ce roman « Un avocat a disparu » de Muriel Bellier. Et ce, pour plusieurs raisons, en fait. La première, c'est que Muriel Bellier est une auteure compiénoise et moi, j'aime bien mettre en avant les auteurs locaux, surtout quand ils ont un certain talent. La deuxième, c'est que j'ai trouvé ce roman particulièrement intéressant, autant dans sa forme que sur le fond. L'auteure est elle-même avocate et elle se sert brillamment de son expérience et de ses connaissances pour nous transporter au sein même d'une cour d'assises. L'histoire raconte celle d'un avocat qui est inculpé pour le meurtre de l'un de ses collaborateurs, alors même que l'on n'a pas retrouvé le corps, mais seulement une quantité de sang présumée létale dans le cabinet. C'est alors que s'ouvre son procès, mettant en scène les différents témoins et leur version des faits très subjective. Le fond est là, une reconstitution pas à pas des faits dans cette cour d'assises, où le lecteur devient alors le juré de ce même procès. J'ai trouvé que c'était une manière vraiment très originale de dévoiler cette enquête, ou plutôt devrais-je dire ce dossier d'instruction, mais aussi une manière très pédagogique de le faire. J'ignorais par exemple que les jurés n'avaient pas accès en amont au dossier d'instruction. Donc leur intime conviction, en fait, elle s'établit exclusivement grâce à la procédure orale de la cour d'assises. Sur la forme aussi, le rythme des témoignages est parfois entrecoupé par un article de journal ou un rapport de police ou d'expert, mais également par une toute petite partie de narration externe qui montre un dernier personnage, une femme, qui ne semble pas avoir de rapport direct avec l'intrigue, mais dont l'avis sur le procès et sa relation avec l'accusé est dévoilé au goutte à goutte et donne au lecteur un point de vue supplémentaire pour forger son intime conviction à lui. Enfin, la troisième raison qui m'a poussée à présenter ce livre aujourd'hui, et ce sera la dernière, c'est tout simplement qu'on espère accueillir Maître Muriel Bellier à la bibliothèque prochainement, début 2022 a priori. Et j'ai pas de doute sur le fait que ce sera une rencontre qui sera tout à fait enrichissante pour nos lecteurs et pour nous-mêmes. Voilà.
Eh ben, on a bien envie de lire son roman. Merci Aurore. Donc moi, je vais vous parler du film Balloon de Pema Tseden. C'est un film qui nous vient du bout du monde puisqu'il nous vient du Tibet. C'est la troisième œuvre que Pema Tseden réalise en adaptant son propre roman. Donc après Tarlo en 2015, il a fait Jinpa Jinpa, un conte tibétain en 2018 que nous avons également en DVD à la bibliothèque. Et donc ici, comme les deux précédents, donc Balloon séduira les cinéphiles en quête de voyage et de beauté visuelle. On est au cœur de la steppe tibétaine. Un couple de bergers élève ses fils. Ayant déjà trois garçons, Drolkar et son mari ne peuvent pas avoir de quatrième enfant sous peine d'amende. Cependant, la contraception est un concept tout récent dans leur communauté. Et donc la mère utilise les préservatifs distribués au compte-gouttes à l'hôpital. Et en parallèle, leurs jeunes enfants s'amusent en toute innocence avec des ballons, dont on découvre rapidement qu'il s'agit de préservatifs que leur mère cachait sous l'oreiller. Et comme ils en viennent à subtiliser le dernier préservatif qui restait, la catastrophe arrive, Drolkar tombe enceinte. Donc la naissance de ce nouvel enfant devient le cœur de l'intrigue. De fait, Balloon expose le poids des institutions et des croyances bouddhistes qui pèsent sur la société tibétaine, dont la réincarnation. Or la mort du grand-père concomitante vient à propos pour être réincarné dans la famille. Ensuite, la politique de l'enfant unique imposée par Pékin, qui tolère trois enfants au Tibet, mais pas un de plus. Et Drolkar, donc, est écartelé entre deux injonctions contradictoires. Doit-elle accepter la grossesse dans un objectif de piété filiale pour faire revivre le grand-père? Ou doit-elle avorter pour la survie financière de sa famille et parce que c'est son choix de femme, tout simplement? La tradition est-elle vraiment compatible avec la modernité? On a une narration fluide et claire et on assiste à ce moment de bascule qui déséquilibre une vie tranquille. Et la protagoniste devra faire force de volonté pour décider de son destin. Tous ces éléments font la force du film. Mais ce qui en fait sa beauté, c'est que Pema Tseden adopte un point de vue poétique. Il filme la vie pastorale tibétaine d'une manière quasi documentaire, mais aussi il rend sensible la grâce des êtres, de leurs actions et des lieux. Il soigne l'esthétisme de chaque plan et il joue habilement des lumières et des couleurs. On atteste l'inoubliable image des enfants avec le ballon rouge qui résume à elle seule l'enjeu crucial du film. Et c'est un ballon qui est emblématique aussi du ventre de la femme enceinte. Il a aussi une teneur burlesque. Et de fait, Balloon, dans ses incursions comiques, est vraiment drôle et souvent par l'entremise des deux garçons qui sont irrésistibles. Le film gagne en légèreté et en émotion. Ses personnages sont attachants et particulièrement touchants. Nous en venons à la fin de cette émission. Donc tout à l'heure, après ce rendez-vous culture, vous avez rendez-vous avec le Cinéclep à la Bibliothèque Saint-Corneille à 20h15 pour La Maison de la Radio, un documentaire de Nicolas Philibert de 2013. Notre prochain rendez-vous culture à la bibliothèque est vendredi prochain, le 26 novembre. Et pour la radio, sur la radio Graphite, le 10 décembre. Merci à tous et merci à Léo pour la réalisation. Et à très bientôt.